Nous sommes le 1er novembre, la trêve hivernale a débuté ce matin. Les expulsions de locataires en cas d'impayés ne sont désormais plus possibles pendant 5 mois. Un répit pour tous ceux qui craignent de devenir SDF. Notre invité a connu cette vie-là. Dormir sur un trottoir, le froid, l'alcool, la violence. Mais dans la rue, il y a aussi parfois de belles histoires d'amitié et de solidarité. Et heureusement, sinon personne ne s'en sortirait. Bonjour Christian Page.
Bonjour.
Vous avez été sans-abri pendant plus de 3 ans à Paris. Certains de nos auditeurs vous connaissent peut-être. Vous avez une petite notoriété grâce à Twitter. Certains de vos messages ont d'ailleurs fait bouger les lignes. Et en plus de ces messages courts, vous avez eu envie d'écrire un livre. Il vient de sortir, ça s'appelle Belleville au cœur. Vous racontez ces 3 hivers dans la rue, dans le quartier de Belleville. Mais j'ai envie de commencer par la fin. Depuis le mois d'août, vous avez retrouvé un logement. Comment allez-vous ?
Eh ben mieux. Disons que je me balade plus avec un sac de 20 kilos et je dors plus dans un sac de couchage dans la rue. Donc ça va vraiment mieux.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être tiré d'affaire ? Ou est-ce que vous avez toujours cette peur de vous dire « je peux y retourner dans la rue » ?
Rien n'est jamais acquis. C'est ça, parce que j'avais quand même une belle vie avant. J'avais un boulot, une femme, un gamin. Je gagnais bien ma vie et puis... Ça me fait penser que ça peut arriver à tout le monde, donc je me méfie. Bien sûr que ça va beaucoup mieux pour moi et de tous les côtés. Mais sait-on jamais. Rien n'est jamais acquis.
Est-ce qu'il faut réapprendre à vivre dans un appartement quand on a vécu 3 ans dans la rue ou est-ce que les habitudes reviennent très vite ?
Bah, j'ai 46 ans, donc j'ai passé près de 3 ans et demi à la rue. Mais avant ça, j'ai toujours eu un appartement, du travail. Donc pour moi, j'ai aucun souci à me réadapter.
Enfin, vous racontez quand même dans votre livre que le sommeil est chamboulé. Et ça continue aujourd'hui.
Oui, je suis absolument insomniaque. Mais ça, c'est physiologique. Puis ça va revenir à la normale. Mmh. Il me faudra quelques mois. Mais oui, effectivement, il est tôt le matin, là, maintenant. Mais moi, depuis 1h du matin, je ne dors pas. Donc, pour moi, c'est le milieu de la journée.
Vous avez retrouvé un logement. Est-ce que vous avez retrouvé un emploi aussi ?
Avec mes histoires de bouquins, j'ai pas vraiment eu le temps, mais je vais changer d'orientation. J'ai une formation prévue au printemps pour faire de la communication réseaux sociaux.
Ah, vous changez complètement, parce que vous étiez sommelier avant.
Tout à fait, oui.
Donc rien à voir.
La restauration, on appelle ça un métier à divorce. Et moi, ça m'a coûté un divorce, une dépression et la rue. Donc, je vais faire autre chose. Puis j'ai remarqué que j'étais pas trop mal niveau communication réseaux sociaux. Donc, je vais m'orienter là-dedans.
Avant de vous retrouver à la rue, vous le racontez dans votre livre, et vous venez de nous le dire, j'étais casée, j'aimais ma vie, ma femme, mon fils, même mon boulot. Vous viviez dans un appartement nickel, écrivez-vous, 88 mètres carrés avec box et cave. Je me disais, là, je suis au top. Et puis, un jour, votre femme est partie, c'est ce qui a tout déclenché. Alors, vous passez très vite sur ce passage dans le livre, j'imagine que vous n'avez pas envie d'en dire beaucoup plus. Donc, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. On fait un bond d'un an, on arrive le 17 avril 2015, les huissiers sonne à la porte. C'est quelque chose que vous devez avoir en mémoire et qui doit résonner en ce jour justement de trêve hivernale. Vous êtes retrouvé à la rue directement ? Vous n'avez pas essayé d'aller chez des amis, chez des cousins ?
D'abord, j'ai essayé les moyens qui existent. Donc, j'ai été voir centre d'action sociale, assistante sociale, qui ont fait une demande d'hébergement au mois de février pour pas que je connaisse la rue. Mais donc, j'ai eu une demande d'hébergement en fait en février 2015 pour avoir un hébergement là le 6 août 2018. Donc, il y a un petit peu des choses qui clochent dans le système. Voilà.
Et d'ailleurs, ça, des petites choses qui clochent dans le système, vous le dites bien dans votre livre. Heureusement qu'il y a les associations parce que les pouvoirs publics, ils sont pas à la hauteur.
Et plus loin que les associations, je veux dire les citoyens, les simples gens, parce que des gens qui m'ont payé un café, qui m'ont filé des chaussettes, même des fois qui m'ont hébergé quelques jours, on est à France Inter, donc je fais un gros clin d'œil à Guillaume Meurice, puisqu'il m'a filé son appart quand même pendant 15 jours. Alors donner son appart à un SDF, faut être un petit peu barré. Mais bon, je pense que vous le connaissez aussi.
Oui, il est un petit peu barré, mais oui. Très généreux. Dans ce livre, justement, vous le racontez, on peut pas s'en sortir sans la solidarité. Et même si vous racontez des moments de violence, c'est évidemment pas facile dans la rue, entre SDF, il y a quand même des petits moments de solidarité entre vous, avec les voisins, avec les commerçants, même avec des policiers.
Oui, tout à fait, mais... Parce que au-delà des professions, on est tous des êtres humains et j'avoue que la police, embête rarement les SDF, à moins d'être dans une bagarre ou être trop alcoolisé. Mais sinon, ils vous embêtent pas, même ils vous aident. Moi, j'ai un pote qui a été pris en charge par une équipe de la BAPSA, la Brigade d'assistance aux personnes sans abri. Et grâce à une de leurs assistantes sociales, il a retrouvé aussi un hébergement et du boulot un mois après. Bon.
Pourquoi écrivez-vous que le SAMU social, hein, le 115, c'est l'enfer? Vous dites même c'est Guantanamo.
C'est même pas moi qui le dis, c'est un grand centre d'hébergement à Paris où dedans il y a 400 personnes qu'on jette dans un hangar avec des lits superposés espacés d'à peine 60 cm, totalement insalubre. Oui, effectivement, il n'y a pas assez de place d'hébergement pour les personnes sans abri, et particulièrement les femmes. Je suis très actif sur les réseaux en ce moment,
oui,
par rapport à ça.
Il y a beaucoup de messages, ouais. Et avec une pétition à signer d'ailleurs, c'est ça?
Oui, tout à fait. La mairie de Paris l'a bien compris puisqu'ils ont annoncé l'ouverture de 50 places pour les femmes au sein même de l'hôtel de ville. Donc, ça avance gentiment. Mais oui, effectivement, on en est au max à 120 000 places d'hébergement alors que la Fondation Abbé Pierre annonce pas loin de 150 000 SDF. Donc, effectivement, on
ne
peut
pas
pousser les murs, mais il y aura forcément 20 à 30 000 personnes qui seront à la rue. C'est un manque de moyens.
Ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous démontez un à un, finalement, tous les clichés qu'on peut avoir sur les sans-abri, toutes les idées reçues. Le plus dur, vous dites, eh bien, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le froid ou ce n'est pas le fait de dormir par terre. Non, c'est de ne pas se laver. Expliquez-nous.
Bah, moi, c'est quand même un point de vue personnel, mais l'hygiène, c'est quand même important. Puis c'est... pouvoir prendre une douche le matin, c'est exactement ce que je faisais quand j'allais travailler, mais c'est pas parce que je suis à la rue que je vais pas prendre une douche tous les matins. Ou des fois, hein, par exemple aujourd'hui c'est un jour férié, c'est l'horreur pour les gens de la rue, parce que les jours fériés tout est fermé. Les associations, la plupart des associations, tout le monde est fermé. Donc voilà, quand il y a un jour férié, il y a plus de SDF. Mais oui, j'ai toujours gardé un même rythme de vie avant. Ou après, ou demain, ou dans 6 mois, je serai toujours comme ça. Mmh. Effectivement, il y a des gens qui dérivent sur ce côté-là, qui sont à la rue, et ben c'est pour ça qu'il y a des potes.
Des potes.
Pour rappeler aux gars, écoute, ça fait une petite semaine, t'as pas pris de douche, je t'emmène dans une assos.
Ce qui détonne aussi dans votre livre, hein, dans votre vie aussi, hein, c'est que vous avez côtoyé ce monde de la rue quand vous aviez une vingtaine d'années, hein, mais vous étiez là de l'autre côté, vous avez aidé les SDF avec des militants de droit au logement notamment. Vous avez fait partie de l'aventure du squat de la rue du Dragon. Alors là, on est quoi? C'est en 94, hein,
18 décembre 94,
on a ouvert. Hiver, voilà, 94. On en a beaucoup parlé à l'époque, des célébrités sont venues vous soutenir. Hein, l'endroit même.
Monseigneur Gaillot est venu s'installer avec nous, ça c'était classe, quoi.
Voilà, il y a eu Catherine Ringer, Jacques Higelin, Albert Jacquard. C'est des noms que vous citez dans votre livre.
Léon Schwarzenberg et plein d'autres, vraiment plein d'autres.
Donc déjà, avant même de vous être retrouvé à la rue, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est cette cause des sans-abri, dès votre plus jeune âge.
Je ne sais pas,
vous aviez 20 ans, là.
C'est une forme d'humanisme. Moi, l'image ne compte pas, on est tous des êtres humains. Et moi, franchement, ça me fout la rage quand je vois des gens qui dorment dehors. En plus, moi, je l'ai fait maintenant, donc ça me met encore plus la rage. Mais quand on voit des enfants faire leurs devoirs sur le trottoir, des femmes dormir dans la rue, se faire agresser, ça fout vraiment la rage, quoi.
Et quand vous entendez des présidents, parce qu'ils ont été plusieurs à le dire, hein, zéro SDF, c'est possible, on va y arriver.
Ah bon, oui, Chirac, il s'est fait élire en disant « je vais réduire la fracture sociale ». Derrière, on a eu Sarkozy, zéro SDF à la fin de mon mandat. Après,
Emmanuel
on a
Macron
une histoire d'inversion de courbe du chômage. Et puis, Emmanuel Macron, qui en juillet de l'année dernière, vous voyez, plus personne à la rue le 31 décembre. Sauf que moi, le 31 décembre, j'étais à la rue.
Donc vous n'y croyez pas, ce n'est pas possible ou c'est un manque de volonté politique?
C'est clairement un manque de volonté politique et surtout un manque de moyens. Il y a des solutions qui existent. D'ailleurs, on reparle de droit au logement, mais on peut aisément transformer des immeubles de bureaux en immeubles de logement. On dit qu'il y a une crise, donc il y a des milliers de mètres carrés vides. En France.
Quand on veut, on peut. C'est ça le sens de votre livre, Christian Page. Belleville au cœur, c'est édité chez Slatkin Édition. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Inter.
Merci à vous de m'avoir accueilli.